9h, 10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Merci Bernard, bonjour à toutes, bonjour à tous. Jusqu'où sommes-nous prêts à céder notre liberté pour défendre notre santé? Cette question digne d'un bac philo confiné, elle vient d'être posée sur l'antenne d'Europe 1 par le philosophe André Comte-Sponville et nous la poserons dans un instant à notre premier invité, le professeur en éthique médicale Emmanuel Hirsch. Car oui, il y eut le temps de la science et de l'urgence, nous sommes désormais entrés dans le temps de la politique et de la réflexion. Ce que nous avons appris collectivement de ce confinement, parfois dans la douleur, de ses conséquences, de ses erreurs, pour mieux en sortir demain dans un autre monde. Emmanuel Hirsch est notre premier invité. Question tout aussi cruciale pour notre liberté de demain. Comment gérer au mieux ces outils numériques qui nous font peur, garants de notre sécurité sanitaire? L'un des meilleurs spécialistes français de la cybercriminalité, le magistrat marseillais Xavier Leonetti, qui s'apprête à publier aux presses universitaires de France « Smart Sécurité et Cyberjustice » est notre deuxième invité. Et puis à 5 jours d'un Conseil européen sous haute tension, réunissant tous les chefs d'État de l'Europe en visioconférence, le virus a-t-il durablement infecté notre espace Schengen de la libre circulation des hommes? Aurait-il au contraire renforcé d'une certaine manière certaines défenses immunitaires de l'Union européenne? Le professeur Sylvain Kahn, auteur du Pays des Européens, répondra dans un instant à nos questions. Enfin, plus intime peut-être, plus profond aussi, quand l'école s'invite à la maison, alors que la zone C sort de ses vacances, comment cette école vient remettre en cause à la maison le fragile équilibre de l'exercice de l'autorité, révélant, accélérant ce que sont les profondes mutations des liens familiaux depuis les années 70. Il est la référence sociologique pour comprendre l'évolution de ces liens familiaux. Le professeur François de Singly est notre invité.
Europe 1, c'est arrivé demain.
Bonjour professeur Emmanuel Hirsch.
Bonjour François Claus.
Merci d'être ce matin en direct sur l'antenne d'Europe 1. Vous avez comme nous, je pense, entendu le philosophe André Comte-Sponville qui posait cette question. Moi, je ne veux pas abandonner cette liberté pour laquelle des millions de gens sont morts dans le monde au nom d'un virus qui a tué 20 000 personnes en France. Que répondez-vous, Emmanuel Hirsch, vous, le professeur d'éthique, au philosophe André Comte-Sponville?
D'abord que j'ai beaucoup de respect pour André Comte-Sponville, hein, je le lis régulièrement. Mais la pandémie, elle n'a rien de philosophique, malheureusement, André Comte-Sponville. Et quand on peut dire la liberté est plus importante que la santé, c'est bien de le dire quand on est en bonne santé. Il y a la santé, et cette santé qui est d'ailleurs défendue par des gens qui sont des accros de la liberté. Les soignants qui défendent notre démocratie, les gens qui sont sur le terrain aujourd'hui, y compris dans les EHPAD. J'ai du mal à voir d'ailleurs le mépris d'André Comte-Sponville pour les EHPAD. Probablement qu'il y va moins souvent que moi. Il y a 7900 EHPAD en France. Est-ce qu'on peut réduire à de la caricature quand on voit comment les gens des EHPAD, comment les professionnels se sont investis avec qualité, comment la relation à la vie est aussi présente dans les EHPAD? Donc pour, je ne vais pas réduire mon propos à discuter André Comte-Sponville, sans plus, non, ça serait indélicat de le faire comme ça.
Mais je dis que un professeur d'éthique qui lui répond.
Oui, mais vous voyez, aussi, quand il dit la liberté est plus importante que la santé en éthique, on parle de l'autonomie de la personne. Est-ce que vous pensez qu'on est autonome quand on est menacé par une pandémie? Est-ce que vous pensez qu'une pandémie aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose de très anecdotique et très relatif? J'espère que Édouard Philippe ne va pas prendre en considération les propos, j'allais dire d'André Comte-Sponville, dans ses décisions, en tous les cas ce qu'il va annoncer tout à l'heure. La force de la démocratie, la force de l'État aujourd'hui, ça a été de prendre en compte les personnes les plus vulnérables, les plus exposées par rapport à la pandémie. C'est ça la démocratie. Alors j'aime bien la philosophie qu'on philosophe, mais au niveau de la responsabilité politique, si c'était André Comte-Sponville qui avait dû prendre les décisions, je ne suis pas certain qu'on soit très rassuré aujourd'hui.
Alors vous, Emmanuel Hirsch, qui êtes, je le rappelle, professeur d'éthique médicale, vous dirigez également le centre d'éthique de la région Île-de-France. Vous lancez demain, et on va revenir avec vous sur cette initiative, un site éthique-pandémie.com. Question malgré tout, pour rebondir sur les propos du philosophe et plus généralement sur ce que ressentent les Français aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans l'injonction sanitaire et scientifique, comme finalement on l'a vu là avec la dernière polémique autour de ceux qu'on appelle de manière un peu condescendante nos aînés, d'abord contraints de rester chez eux avant de comprendre, peut-être un peu tardivement, que l'âge n'est pas forcément le signe de la santé?
En matière d'éthique, une décision, surtout dans un contexte comme le nôtre, on va en parler, doit être proportionnée. Qui pouvait anticiper la gravité et l'évolutivité du Covid-19? Les responsables politiques ont été amenés à prendre des bonnes décisions, c'est-à-dire ils ont maximalisé, j'allais dire, la prise en compte de tous les risques, mais qui étaient très incertains. On était dans l'hypothèse. Regardez aujourd'hui encore dans le journal, on est en train de dire peut-être que le virus est différent dans son développement qu'on ne le pensait. Bref, on est dans l'incertitude. Et il faut décider avec des experts qui eux-mêmes ont besoin de temps pour arriver à confirmer un certain nombre d'hypothèses. Donc maximiser, comme on l'a fait, la gravité de la possibilité de l'impact du Covid-19, c'était prendre une décision politique responsable. Et regardez à quel point, et on a vu avec le H1N1 en 2009, les gens qui avaient eu une vigilance, une prudence, ont été mis en cause par l'excès. Là, je pense que c'est très facile de juger a posteriori, mais on n'est pas encore dans la posteriori, on est en pleine crise. Donc on est en train de débattre sur qu'est-ce qu'il fallait faire, comment on devait le faire, etc., au moment même où on est encore au cœur de la crise. Ce qui est important de voir, c'est quand même que il y a une mobilisation de l'État, il y a une mobilisation des professionnels, les services d'urgence, les services de réanimation, les différents dispositifs ont fait face. Malheureusement, tout n'a pas été parfait dans la mesure où on ne pouvait pas tout accompagner. Il y a eu des décisions à prendre. Le chef de l'État a dit au départ, on est en guerre. Effectivement, il y a des décisions. On peut maintenant voir les finalités des décisions. Il y a une amélioration aujourd'hui de la situation générale. Il y a les conséquences, et on l'a déploré. Quand on voit les injustices flagrantes au domicile liées au confinement, quand on voit un certain nombre effectivement de conséquences dans les EHPAD, où des gens probablement n'ont pas été victimes, entre guillemets, du Covid-19, mais du confinement, de l'absence de relations, de l'envie finalement de mourir parce qu'il n'y avait plus d'espoir. Dans tous les cas, les politiques ont pris leurs responsabilités, moi je leur rends hommage. C'est trop facile de faire l'exégèse comme ça en philosophe. Aujourd'hui, nous sommes encore en pleine bataille, on ne va pas commencer à faire de la controverse. Donc moi je dis ce qui est intéressant...
Néanmoins, Emmanuel Hirsch, cette crise a révélé finalement un lien qu'il a fallu construire, parce qu'il n'existait pas forcément aujourd'hui, entre ce que sont les scientifiques avec leur savoir et les politiques qui ont des décisions à prendre. Est-ce qu'à ce niveau-là, il faut apprendre de ce qui s'est passé et comment l'apprendre?
Mais on a déjà eu d'autres situations, on a eu le sida, on a eu d'autres moments où l'expertise scientifique est quelque chose d'important, avec aussi toutes les controverses scientifiques qui ont été alimentées d'une manière assez médiatique par certains médecins. Moi, ce que je pense qui est important, c'est d'abord de pouvoir faire confiance. Et ce qui m'inquiète au moment où je vous parle, c'est que la défiance commence déjà à gangrener la cohérence, la cohésion de la nation. On sort d'un moment fort de démocratie, il faut qu'on rentre, et vous l'avez dit dans votre chapeau, dans la dimension du politique, c'est-à-dire de la concertation. C'est facile de critiquer. Là, il y a des gens, je ne sais pas ce que André Comte-Sponville faisait pendant cette crise, et je pense qu'il réfléchissait d'un point de vue philosophique. Il y a des gens qui n'ont pas réfléchi, il y a des gens qui ont résisté, il y a des gens qui ont agi et qui nous permettent aujourd'hui de nous poser des questions en termes de démocrate, puisque finalement, notre démocratie a été au rendez-vous. Donc moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'après. Alors, il y avait les scientifiques, avec leurs incertitudes, et ouvrez la parenthèse sur ce qui s'est passé en Chine, d'un point de vue rigueur, intégrité scientifique, transmission des savoirs, on peut se poser bien des questions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, en alliance avec les scientifiques, les responsables politiques prennent des décisions au nom des valeurs de notre démocratie et des choix qui leur semblent les plus importants. Notez un point important, c'est que le Conseil Covid-19 auprès du président de la République était rétif à ce que les personnes d'un certain âge ou les personnes vulnérables soient déconfinées, entre guillemets. Le chef de l'État a pris une décision politique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est nos élus, on est dans une démocratie, on a une représentation nationale, à un moment donné, ils prennent leurs responsabilités. Et je les admire, parce que prendre des responsabilités dans un contexte aussi incertain et avec des polémiques telles qu'elles commencent à sourdre d'un peu partout, je dis c'est du courage. Donc moi, je suis plutôt du côté de la démocratie que de ceux qui veulent la mettre à bas. Et je suis inquiet de voir
comment défendre précisément. Comment défendre précisément, Emmanuel Hirsch, les fondements de cette démocratie? Eh bien, nous en parlons avec vous dans un instant.
Europe 1.
On vous retrouve ce dimanche, François Claus, mais de chez vous, bien sûr, pour cette arrivée demain.
Et nous retrouvons surtout le professeur d'éthique médicale Emmanuel Hirsch, que je remercie encore d'être en direct ce matin sur Europe 1. Vous lancez, Emmanuel Hirsch, demain un site éthique-pandémie.com, éthique-pandémie.com, une forme d'appel finalement, et qui rejoint notre propos sur la démocratie d'il y a un instant, aux citoyens à venir participer à une forme de grande consultation nationale sur la meilleure manière de gérer la sortie du confinement.
François Claus, vous savez, ce que j'observe, moi je ne suis pas André Comte-Sponville, moi j'ai des regards qui sont des regards admiratifs sur la vie de la démocratie. Jamais on a autant pensé. Vous savez, le confinement, ce n'est pas un confinement intellectuel, c'est un confinement de responsabilité. Lui qui médite sur les antiques, il aurait vu que les gens ont réfléchi beaucoup, ont reposé un certain nombre de questions de valeur et de sens. Donc on est dans un contexte qui est très très favorable, à mon avis, au débat public, à la concertation, avec des modalités effectivement de distanciation. Il y a toutes les technologies qui sont à notre disposition. J'observe trois points, et ce sera mes points critiques. Quand le comité consultatif national d'éthique s'est prononcé le 13 mars dernier sur l'éthique en matière de pandémie, je lui avais dit qu'il fallait qu'il y ait une réflexion citoyenne, qu'on aurait dû mettre en place en quelque sorte un jury citoyen. On ne l'a pas fait et je le regrette. La Convention citoyenne sur le climat a rendu une motion en disant « Dès à présent, il faut qu'on participe à la concertation sur l'après ». La Conférence nationale de santé, c'est le dernier point que je citerai au niveau des références, Conférence nationale de santé, qui est le Parlement de la santé avec toutes les associations, toutes les structures représentatives, le 15 dernier, donc il y a quelques jours, a dit à quel point ils n'ont été associés en rien, ni aux discussions, sur hier et ni au choix sur demain. Donc je pense qu'on a besoin effectivement de débats, de dialogues. On nous a parlé d'intelligence collective, on nous a parlé aussi de réalisation et d'engagement collectif au niveau de la démocratie. Donc je prends une position qui est un petit peu prétentieuse, moi je ne suis pas un politique, mais si j'ai un appel à faire à M. Édouard Philippe quand il est en train de préparer sa conférence de presse de tout à l'heure, c'est de nous donner des signes directeurs de ce qu'on veut être véritablement les concertations. On a besoin de concertations, sans cela, ce n'est pas en démocrate qu'on va sortir de la crise. Et encore une fois, je dis à André Comte-Sponville, elle ne se termine pas aujourd'hui, la crise du Covid-19. Elle va nous poursuivre pendant des mois et des années, ne serait-ce qu'au niveau de repenser notre société, au niveau économique, au niveau des fragilités.
Mais vous entendez également, Emmanuel Hirsch, vous entendez également cette musique qui monte. De toute façon, après, ça va repartir de la même manière. On voit le discours politique qui est en train de s'installer, des nouvelles fractures qui sont en train d'arriver.
J'accepte pas les gens qui vont construire cette histoire, ces éléments de langage. Moi, je trouve que ça serait falsifier et contester ce qui s'est fait de remarquable. Là, on a un témoignage concret de ce qu'est la vie de la démocratie. Alors, on pourra toujours le nier, il y aura toujours des dégâteurs, il y aura toujours des gens qui préféreront le désordre, le désastre, alors qu'on a eu de la cohésion, de la cohérence, et j'allais dire, il n'y a pas eu vraiment de chef d'orchestre. Il y a eu l'État, à travers le gouvernement, qui a rappelé les valeurs fondamentales, qui a permis de débloquer des financements importants pour éviter d'accentuer les précarités qui étaient aussi avant la crise. Donc ce que je dis, c'est que le danger pour moi, mais je parle avec mon humilité, c'est qu'on arrive à un moment de tourment où le Covid-19 non pas aura touché tant de personnes, mais il touchera notre démocratie dans ce qu'elle a de plus profonde. C'est-à-dire qu'une pandémie, c'est une interrogation, une mise en cause fondamentale, pas uniquement d'un point de vue biologique, mais en termes de société. C'est ensemble qu'on a vécu le Covid-19 et qu'on va le vivre pendant les mois et les années ensemble. Donc c'est ensemble qu'il faut apporter des réponses en termes de mobilisation, de responsabilisation. Et on a la démonstration concrète que pendant des semaines, l'ensemble de la société, y compris les personnes les plus vulnérables, donc les plus en difficulté de se soumettre finalement au règlement du confinement, tout le monde s'est mobilisé. C'est pour ça que je trouve quasiment ridicule, excusez-moi de vous dire, de nous parler de confinement en termes de liberté remise en cause. C'est pour défendre nos libertés que d'une manière transitoire, on a accepté un certain nombre de contraintes. Et on ne peut pas dire, excusez-moi de dire, et c'est un peu caricatural, que le confinement soit l'enfermement comme si on était dans un régime totalitaire. C'est un confinement...
Vous diriez, Emmanuel Hirsch, que cette crise nous a plus rassemblés qu'elle ne nous divisera demain.
Évidemment. Regardez, on sortait de crise importante d'un point de vue social. On avait l'impression que l'État était à bas, que finalement il n'y avait plus de cohésion, qu'il n'y avait plus d'envie de démocratie, etc. Et là, on a une démonstration mais extraordinaire de ce qu'est la vitalité de notre démocratie à travers des initiatives des gens qui étaient les plus invisibles dans notre démocratie. Vous voyez, il y a des gens qui nous ont représentés, c'était les pauvres gens, les petites gens qui ont fait des manifestations et je respecte leur point de vue. Mais parmi ces personnes, il y a eu des gens qui ont eu un engagement, un esprit d'engagement tout à fait extraordinaire. La vraie question, c'est une leçon maintenant politique, et j'attends moi de nos responsables politiques, de notre représentation nationale, rapidement qu'elles prennent en compte toute cette force. Parce que si on ne prend pas en compte cette expertise de terrain, cette capacité de mobilisation, ça va s'effondrer. C'est-à-dire, il y aura effectivement tous les remues qu'on commence à entendre aujourd'hui, d'une indécence, mais j'allais dire que j'arrive même pas à comprendre. Il faut lutter en démocrate. Et j'ai dit donc qu'il y a un vrai combat politique à mener, et c'est pas uniquement les politiques qui vont le mener, c'est notre État, notre nation, et on est tout à fait prêt, on l'a démontré pendant des jours et des jours. Excusez-moi un peu d'être un peu enflammé, c'est pas un discours...
Mais au contraire, mais on entend votre appel, il sera relayé, et on a entendu votre appel à participer à ce grand débat éthique-pandémie.com, éthique-pandémie.com. On peut signaler d'ailleurs un peu dans le même registre, Emmanuel Hirsch, que les archives de Marseille ont lancé hier un appel à toute la population marseillaise pour leur demander d'apporter leurs témoignages sur le confinement, des témoignages visuels, des écrits, des photos, des vidéos, des témoignages sonores, pour rassembler cette matière d'une période très singulière que nous traversons tous en commun et pour l'utiliser au mieux demain, ce qui était également le sens de votre appel ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Merci de l'avoir lancé pour nous, à nos auditeurs.
Merci.
Emmanuel Hirsch, bonne continuation à vous. Et dans un instant, vous allez le voir sur Europe 1. On va rester dans la même problématique, la défense de cette démocratie face aux géants, Google, Apple, et aux instruments si précieux pour nous sauver, aux instruments numériques. Mais là aussi, la liberté, et notre liberté de ne pas être forcément tracée 24 heures sur 24, est à défendre. Et c'est Xavier Leonetti qui sera notre invité.
Europe 1. De 9h à 10h, vous écoutez François Claus pour C'est arrivé demain sur Europe 1.
Et je suis heureux d'accueillir à distance Monsieur Xavier Leonetti. Bonjour Monsieur Leonetti.
Bonjour François Claus.
Vous êtes magistrat, spécialiste de l'intelligence artificielle, de la cybercriminalité, dont vous êtes le référent au sein de la juridiction interrégionale de Marseille de lutte contre les fraudes. Vous vous apprêtez à publier Smart Sécurité et Cyberjustice aux presses universitaires de France. Vous avez vraisemblablement entendu le professeur Emmanuel Hirsch dans un instant lancer cet appel à la défense de notre démocratie en sortie du confinement. Cette démocratie, beaucoup de Français la ressentent comme atteinte aussi par la mainmise demain de ce que seront les outils digitaux et numériques de messieurs Google et Apple susceptibles de nous tracer partout au nom de notre sécurité sanitaire. Est-ce que ce matin, monsieur Leonetti, vous pouvez nous rassurer ?
Alors, vous rassurer, je l'espère. Déjà, si on analyse les faits, on peut voir objectivement des éléments qui peuvent nous rassurer. Notre démocratie est en pleine vitalité, puisque d'une part, la critique est possible, et si la critique est possible, nous ne sommes pas dans un régime autoritaire. La critique est d'autant plus possible que des recours judiciaires ont été formés. Rappelons que le Conseil d'État a été saisi plus de 100 fois concernant la loi d'état d'urgence sanitaire, et que donc on peut, à travers ces éléments-là, constater que la démocratie fonctionne, son système est parfaitement en place, la justice travaille, répond à ces questions, et j'en veux pour preuve la récente décision concernant Amazon, la préservation du droit des individus, du droit des travailleurs. Si nous étions dans un régime autoritaire, nous ne serions pas en mesure de prendre de telles décisions qui respectent le droit et les libertés.
Est-ce que vous comprenez cette angoisse qui monte dans la société française et notamment le débat autour de l'application Stop Covid qui permettrait très vite d'isoler techniquement les personnes infectées, mais qui en même temps lance le débat sur notre liberté de bouger et d'agir sans être contrôlé par une superstructure?
Oui, la crainte est parfaitement compréhensible. Nous sommes dans une période de crise, une période de peur. Il y a un sentiment d'insécurité, d'insécurité sanitaire qui est partagé collectivement parce qu'il y a déjà un rappel fondamental, c'est la peur de la mort qui nous est rappelée tous les soirs lors des journaux télévisés avec le décompte qui certes est nécessaire, mais un peu anxiogène, du nombre de décédés. Donc la peur va justifier aussi des craintes sur l'après. Concernant l'application Stop Covid, je vous dirais qu'il s'agit d'une mesure d'accompagnement sanitaire. Ce n'est pas du tracking, du tracing, comme on peut le dire. Alors certes, c'est le mot qui est employé, mais vous savez, aujourd'hui, pour détecter les personnes en contact avec un patient infecté, ce sont des médecins qui manuellement, artisanalement, vont essayer de rechercher ces points de contact. L'application, demain, va nous faire passer un peu de cette époque qui est un peu celle de Charlie Chaplin et des temps modernes, où vous avez les médecins qui courent après les patients et les personnes infectées, à une période qui sera un peu plus moderne, sans tomber dans la science-fiction de Matrix. Nous serons simplement dans un travail à la chaîne qui va aider les médecins, qui va aider en fait la santé publique à travailler plus vite et donc à nous protéger. Pour rappel, cette application qui sera anonyme avec des données conservées temporairement est une application qui fait le service minimum de gestion des données. Elle gère les données de manière moindre que le moindre radar qui est aujourd'hui sur le bord de nos routes. Donc en termes de fichiers, nous sommes vraiment en deçà des craintes que nous pourrions avoir aujourd'hui.
Est-ce qu'on pourrait même, Xavier Leonetti, voir là une accélération positive de ces outils numériques? On a vu, vous évoquiez finalement le combat pour aller chercher le patient zéro, où effectivement avec le numérique, par rapport aux médecins qui travaillent avec leur crayon et leur téléphone, on gagnerait possiblement. Est-ce que vous voyez d'autres applications positives dans le domaine notamment qui est le vôtre, celui de la police ou de la justice?
Oui, je pense que nous avons culturellement déjà changé de paradigme. Notre organisation s'est réinventée. Nous le voyons à minima avec le télétravail, avec la visioconférence. Et sans parler d'outils techniques liberticides, nous allons avoir des outils organisationnels qui vont permettre, et c'est dans le cadre déjà du projet qui était antérieur à la crise, du ministère de la Justice, qui vise à faire entrer la justice dans le numérique avec la numérisation des données, faire passer une procédure. Tout simplement, vous savez, aujourd'hui, la police va, lorsque vous déposez plainte, générer la plainte sur informatique, puis ensuite l'imprimer pour que lorsqu'elle arrive au tribunal judiciaire, elle soit rescannée. Déjà, à minima, que le tout numérique permette une fluidité et donc une rapidité dans la transmission des données, ce qui permettra une meilleure administration de la justice. Tout à fait, c'est le premier point.
Et les autres points, on va les développer avec vous. Vous vous apprêtez, je le rappelle, à publier précisément Smart Sécurité et Cyberjustice. On voit les tribunaux aujourd'hui engorgés. Le retard des procès pose un véritable problème à la justice française. Là également, vous pensez qu'il y aurait des possibilités d'accélérer ce temps de la justice ?
Alors, l'accélération doit toujours se faire dans le strict respect des droits et libertés. Et comme vous l'évoquiez dans votre précédente question sur la démocratie, toute modification doit se faire à l'issue d'un débat. Et que ce soit dans l'après-crise de manière générale ou s'agissant des suites qui seront données dans le secteur judiciaire, dans le monde judiciaire, le Parlement aura sans doute à réfléchir, à débattre sur les mesures à prendre. Sans doute que des mesures devront être prises parce que le volume de dossiers qui n'ont pas pu être audiencés ne cesse de croître. Et il s'agira d'apporter, comme je vous le disais, une bonne administration de la justice, c'est-à-dire que le justiciable n'attendent pas des années pour voir une réponse donnée à ces questions, sachant que dès à présent, et je tiens à rappeler et à rassurer vos auditeurs, l'ensemble des mesures urgentes sont traitées au quotidien par les tribunaux qui fonctionnent, qui sont ouverts. Il y a des centaines et des milliers de magistrats qui travaillent physiquement dans les tribunaux judiciaires, mais également en télétravail. Et je vous citais les procédures de référé qui sont aujourd'hui diligentées dans différents domaines. Elles sont suivies d'effets, de décisions, et dans des domaines, que ce soit au niveau pénal ou même de gestion des contentieux plus civils, des décisions sont rendues tous les jours pour assurer, évidemment, pas dans la même situation qu'en temps normal, mais pour assurer la continuité de la justice.
Est-ce que l'introduction, Xavier Leonetti, de ces nouveaux instruments digitaux dans notre quotidien ne va pas accroître ce qu'on appelle aujourd'hui la fracture numérique, quand on sait que 13 millions de Français n'ont pas de portable, un chiffre quand même très fort? Et est-ce qu'il n'y a pas le risque là d'une forme d'état de droit un peu alternatif?
Alors, l'état de droit alternatif, oui, c'est une expression que j'utilise assez souvent, car nous sommes aujourd'hui en période de crise, dans un état de droit, certes, mais alternatif, puisqu'il est dans une période extraordinaire à la période normale. Un peu, si je prends la métaphore d'un trajet, si votre TGV ne peut plus emprunter la voie normale, il va prendre un itinéraire bis, le temps d'éviter, de contourner l'incident ou l'accident. Eh bien, nous allons retrouver une voie normale. Par contre, en matière numérique, nous progressons, ça c'est une évolution qui se fait depuis plusieurs années, c'est-à-dire à permettre au territoire national d'être entièrement couvert en matière de téléphonie mobile, de réseau haut débit en matière d'Internet. Et c'est sûr que la fracture tend à se réduire, elle tend à être comblée avec le temps. Bien évidemment, la crise la met en lumière, mais parce que les choses ne se font pas dans le temps d'urgence aussi vite qu'on souhaiterait qu'elles le soient.
Le magistrat que vous êtes se sent suffisamment armé demain face à messieurs Google et Apple qui annoncent donc une inédite alliance. Vous pensez que par rapport au poids de ces deux géants, leur capacité technologique, notre justice et finalement les piliers de notre démocratie sont suffisamment solides?
Alors c'est une excellente question, vous la posiez déjà, à savoir quelles vont être les incidences au niveau des GAFAM lors de votre première question. Excellente question qui rappelle deux notions fondamentales. Tout d'abord, la souveraineté économique. On entend aujourd'hui parler de patriotisme économique. Il faut savoir que pourquoi nous sommes dépendants des GAFAM, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook. Sachez que 99% des recherches sur les moteurs de recherche aujourd'hui sur Internet sont liées à Google, qui va conserver vos recherches, votre historique de données, de recherches, de consultations. Eh bien, nous sommes dépendants parce que nous n'avons pas la technologie en France ou en Europe. Donc déjà, le débat qui était déjà celui du début d'année 2020 avec la nouvelle commission, ce débat va se porter dans l'après-crise. Est-ce que l'Europe ne doit pas se saisir de cette crise, la crise qui peut être une opportunité, hein, étymologiquement en grec c'est aussi une opportunité, se saisir pour renforcer les outils de souveraineté. Ensuite, juridiquement, eh bien là aussi, l'Europe et la France devront réfléchir finalement peut-être à effectuer une sorte de législation miroir. Sachez que sous l'administration du président Trump, l'Amérique s'est dotée d'un document, d'un texte de loi, le Cloud Act, qui permet à l'État américain, aux fins d'enquête, de pouvoir accéder à l'ensemble des données conservées, détenues par les Google, Apple, Facebook, Amazon. Donc vous le voyez, pour en revenir à votre question préliminaire, l'enjeu n'est pas tant de se dire est-ce que l'État français va venir gérer de manière intrusive nos données. Je vous dirais, aujourd'hui, nous avons des contre-pouvoirs, des contre-autorités, des ONG qui sont là pour surveiller, contrôler, et c'est nécessaire et c'est indispensable. Mais se poser déjà la question si, dans notre quotidien, nous n'utilisons pas des données, des applications qui sont déjà liberticides, mais nous le faisons d'une manière presque volontaire parce que cela nous facilite la vie, et c'est bien en cela que l'enjeu commercial défendu par ces grandes institutions américaines va nous contraindre et nous contraint au quotidien dans la gestion de nos données et de notre vie privée.
Merci beaucoup Xavier Leonetti de nous avoir accompagnés dans vos réflexions et de nous avoir d'une certaine manière rassuré. Je rappelle que vous êtes magistrat et on lira avec beaucoup d'intérêt le Smart Sécurité et Cyberjustice, votre prochain ouvrage aux éditions Presse Universitaire de France. Merci à vous encore.
Merci.
Dans un instant, l'impact du confinement sur les liens familiaux. C'est la rentrée scolaire pour la zone C, celle de Paris et de Toulouse. Oui, il va falloir reprendre l'école à la maison. Et vous allez voir avec François de Singly, ce n'est pas si simple l'articulation entre ces deux mondes.
Europe 1, c'est arrivé demain. Continue avec vous, François Claus.
Bonjour, professeur François de Singly.
Bonjour.
Professeur de sociologie à l'Université de Paris, auteur notamment de Libre avec un S, Ensemble, chez Armand Collin. Lorsque je vous ai parlé au téléphone hier, professeur, j'attendais de vous qu'on évoque le couple, les hommes, les femmes, la difficulté. Vous m'avez dit non, il y a un énorme problème, c'est l'intrusion de cette école dans l'univers de la famille et de la maison et de son quasi impossible articulation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ce matin?
Dès les premiers jours, en fait, j'ai été frappé par l'arrivée de plein de vidéos, de dessins humoristiques, et tout portait justement sur le fait de l'école, des horaires de l'école à la maison, etc. Et assez peu sur autre chose. Et tout d'un coup, je me suis un peu, en réfléchissant, dit que depuis, on va dire schématiquement, 1968, en fait, le couple école-famille fonctionne, disons, moyennement, mais en tout cas, elle fonctionne sous un mode de délégation. La famille ne veut pas avoir trop d'autorité les parents, d'avoir trop de liens d'autorité avec les enfants, et c'est l'école qui assure principalement dans la transmission du savoir, qui ne peut se faire que dans un rapport d'autorité, qui assure cette fonction. Et là, tout d'un coup, au nom de la continuité pédagogique, alors que depuis 1968, on aurait pu dire la discontinuité pédagogique, au nom de la continuité pédagogique, le ministère a imposé le fait que l'école soit à la maison. Et sans le savoir, il a contribué à tendre les relations très fortes, enfin de tendre de manière forte les relations entre les parents et les enfants, puisque d'un seul coup, ces parents qui sont devenus des professeurs, et pas simplement des parents d'élèves, des professeurs entre guillemets, ça voulait dire en fin de compte assumer des tâches d'autorité, imposer de manière beaucoup plus dure entre guillemets des horaires, des dictées, des problèmes, choses qui sont faites par les enseignants, éventuellement d'ailleurs avec des problèmes parce que l'école est elle-même en crise, mais c'est totalement bousculer les nouveaux rôles parentaux, non seulement de la mère, mais même du père, puisque avec cette expression le nouveau père. Le nouveau père n'est pas forcément celui qui partage bien les tâches domestiques, ça se saurait, mais en tout cas qui a un peu renoncé au pouvoir et aux formes d'autorité les plus visibles, de telle sorte d'ailleurs que dans les entretiens, les femmes disent oui, de temps en temps, mon mari joue l'autorité. De toute façon, il lui reste éventuellement le choix de sa propre chaîne de télé. Enfin, il est presque ridiculisé s'il devient et remplit une fonction d'autorité. Puis là, tout d'un coup...
Là, vous nous dites que le confinement
revenons aux années 50. Bon, ben ça, c'est pas possible.
Et donc de grosses difficultés au quotidien, et cette modification, j'allais dire, de ce que vous exprimez, l'espace de l'autorité, ça peut marquer une génération en quelques mois ou semaines de confinement?
Non, je ne pense pas, parce que le développement... justement, et ça a été la surprise, ce qu'on a dit, la famille est en crise dans ces années 70, et puis en fin de compte, elle est de très loin l'institution la plus aimée. Et pourquoi la famille est devenue aimable? Parce que justement, elle a été dépossédée en partie seulement, mais dépossédée de cette fonction d'autorité, de telle sorte que la définition de la famille idéale, c'est entre guillemets la famille cool, c'est-à-dire des bons moments ensemble, dans lesquels chacun ayant assuré son travail, soit professionnel, soit scolaire, on se retrouve pour regarder certaines séries, pour regarder certains films, pour faire des goûters sympathiques, de telle sorte qu'en fait, ayant évacué cette fonction, on parvient à avoir des rapports, disons, cordiaux, assez peu tendus. En fait, c'est toujours une des surprises quand on se penche sur les relations entre les parents et les enfants, assez peu tendues, puisque on alterne quelques moments ensemble avec beaucoup de temps où chacun peut aller dans sa propre sphère et dans sa culture générationnelle. Là, alors est-ce que deux mois de confinement et deux mois d'imposition de l'école dans la famille va transformer ça? Non. Non, pour une raison assez simple, c'est que il n'y a pas eu de reconversion en disant mais c'est vraiment formidable. Ça aurait pu, hein, on ne sait jamais, mais il n'y a pas eu de nostalgie, contrairement à certains intellectuels qui nous font toujours le coup de la nostalgie des années 30 à 50 ou 60. Les Français ne sont pas nostalgiques de ces années-là, en tout cas pour la vie privée, les femmes encore moins d'ailleurs, mais donc il n'y a pas de raison. Non, c'est simplement que justement, cette délégation, on a vu ce que c'était, et on a vu qu'on ne le voulait pas. Pour le dire de manière un peu humoristique, je pense que cet été, l'échec pour les éditeurs va être total des cahiers de devoirs de vacances, puisqu'il rappellera sur la couverture, au lieu de mettre cahiers de devoirs de vacances, ça s'appellera les nouveaux cahiers du confinement. Non, je pense qu'il y a d'autres choses à faire en famille. On peut ouvrir à ses enfants le monde, certaines pages d'histoire. Enfin, il y a des tas de choses à faire. Et puis, il y a des tas de choses à faire qu'on n'apprend pas à l'école, par exemple des jeux coopération. L'école reste sur un modèle compétitif. Laissons à l'école cette compétition et faisons que les liens familiaux surtout ne redeviennent pas compétitifs, puisque à ce moment-là, ça serait la destruction même de la famille.
Il y a une réalité plus sombre que révèle également au niveau des liens familiaux ces conditions de confinement que nous vivons, François de Singly, c'est celle de la montée des violences conjugales. C'est une réalité, on parle de plus de 30% de plaintes depuis quelques semaines. C'est malheureusement une réalité qu'il faut affronter aujourd'hui.
Ça, vous avez tout à fait raison. Il y a aussi violence à l'enfant, même si on n'a pas les chiffres. Ça, c'est clair et c'est... C'est la page sombre du confinement, mais qui va peut-être nous servir de leçon là-dessus. En tout cas, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler pour le monde d'après. C'est que même si on le savait, on n'insistait pas forcément, parce que les politiques familiales sont des politiques relativement traditionnelles, allocations familiales, etc. Il faut vraiment comprendre que pour qu'une famille aujourd'hui soit aimable, c'est-à-dire que les liens soient positifs, il faut cette alternance d'espaces communs, la salle de séjour, cette cuisine ouverte, etc., avec les espaces privés, de telle sorte que chacun puisse se retirer dans son monde. C'est cette alternance qui définit la famille aujourd'hui. Or, dans de nombreux cas, notamment dans les milieux populaires, dans les familles d'origine immigrée, vous avez des enfants, ils sont encore, ils peuvent être 3-4 dans une chambre. Il est strictement impossible à ce moment-là qu'il n'y ait pas une détention, puisque la retraite, puisque le confinement a plusieurs... Les moines, je m'excuse de la comparaison, mais les moines, ils ont une vie commune qui est faite de prières, mais chacun retourne dans sa cellule. Et sur le fond, la famille, elle est assez monastère à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il faut que chacun ait une cellule. Donc la politique familiale devra être vraiment centrée prioritairement sur le droit à un espace familial. Sinon, c'est la violence.
Évidemment ce qui induira évidemment des mesures sociales, des mesures économiques. Merci d'avoir apporté, François de Singly, votre pierre à cette réflexion sur une nécessaire nouvelle politique familiale, de ce que le confinement nous révèle et nous apprend, alors qu'on va entrer demain dans la 6e semaine de ce confinement. Merci beaucoup, François de Singly. Je renvoie à votre ouvrage « Libre avec un S ensemble » chez Armand Collin. Dans un instant, d'autres frontières qui sont menacées ou renforcées, celles de l'Europe avec le professeur Sylvain Kahn.
Europe 1, jusqu'à 10h ce dimanche, vous êtes avec François Claus pour cette arrivée demain sur Europe 1.
Et nous sommes avec le professeur Sylvain Kahn. Bonjour Sylvain Kahn.
Bonjour François Claus.
Professeur à Sciences Po, spécialiste des questions européennes, co-auteur avec Jacques Lévy du pays des Européens, publié chez Odile Jacob. Nous sommes, Sylvain Kahn, à 5 jours d'un sommet des chefs d'État européens où l'on attend une prolongation de la fermeture de l'espace Schengen qui a été à 2 reprises prolongée. Est-ce que vous diriez, Sylvain Kahn, que le Covid-19 a eu raison de ce grand rêve européen d'une libre circulation des biens, mais aussi des hommes ?
A eu raison de, c'est trop tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui et depuis le début de l'épidémie en Europe, c'est sûr qu'il y a eu 2 choses, celles que vous venez de rappeler, à savoir que l'espace Schengen en tant que tel a fermé ses frontières avec le reste du monde. Alors fermer ses frontières, on sait bien ce que ça veut dire, hein. Ça ne veut pas dire que c'est devenu complètement hermétique, mais ça veut dire que les conditions pour sortir ou pour rentrer ont été considérablement renforcer de manière à limiter considérablement la mobilité des personnes. Et d'autre part, le deuxième volet, c'est effectivement que à l'intérieur de cet espace Schengen, la plupart des pays européens ont fermé totalement ou partiellement leurs frontières bilatérales avec leurs voisins européens. Donc c'est sûr que dans l'état actuel des choses, la libre circulation, celle que vous évoquiez, qui est à la base du traité de Rome en 1957, est pour l'instant suspendue. Alors il faut quand même signaler au passage, malgré tout, hein, que cette suspension temporaire de la liberté de circulation et du rétablissement des contrôles aux frontières, c'est quelque chose qui est prévu, hein, déjà par le traité de Rome, puis qui est ensuite prévu par le traité de Maastricht et par la convention Schengen.
Mais si on regarde, Sylvain Kahn, l'équilibre politique européen, ceux qui prônaient cette fermeture plus stricte, on pense évidemment à certains pays d'Europe de l'Est, notamment la Hongrie, on pense également au mouvement souverainiste en France ou en Italie, du Rassemblement National à Salvini, ils ont aujourd'hui un boulevard devant eux pour valider leur philosophie politique.
Si j'ose dire, ça se discute et ça fait partie du débat public. C'est-à-dire que, en effet, ils peuvent dire aujourd'hui que une partie très importante de leur programme se trouve mise en œuvre, hein, puisque effectivement les mouvements que vous évoquez et qui sont au pouvoir dans certains pays, effectivement, peuvent dire ben voilà, vous l'avez bien dit, il faut fermer les frontières et enfin on y est arrivé. Mais jusqu'à preuve du contraire, cette fermeture des frontières, là où elle est pratiquée, c'est-à-dire à peu près partout, elle est considérée comme provisoire. C'est comme le confinement, si vous voulez. Voilà. Hein. Là, on voit déjà qu'il y a un certain nombre de gouvernements européens qui commencent à organiser le déconfinement. La République tchèque, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, qui d'ailleurs n'a jamais vraiment confiné. Il est pour l'instant annoncé que la fermeture des frontières est considérée comme provisoire et lié à la lutte contre la pandémie, et que le jour où la pandémie sera sous contrôle, il n'y aura plus de raison de conserver les frontières internes à l'espace Schengen fermées comme elles le sont aujourd'hui, parce que de toute façon, tout le monde est pénalisé, hein, je veux dire, même du point de vue économique, pour ne prendre que le secteur du tourisme, hein, pour ne prendre que celui-là qui est le plus évident, mais aussi ce qu'on appelle le tourisme d'affaires, c'est-à-dire que les gens qui traversent les frontières pour des raisons de travail, personne n'a intérêt à ce que ça dure trop longtemps.
Paradoxalement, dans cette crise, Sylvain Kahn, on a assisté à un événement qui n'a peut-être pas été suffisamment marqué, mais absolument majeur dans l'histoire européenne. Les fameux critères de Maastricht, ce carcan budgétaire qui déchire à la fois les dirigeants et les citoyens depuis maintenant plus de 20 ans, il a suffi de quelques jours de pandémie pour qu'il saute tout simplement dans une forme d'urgence totale qui va peut-être marquer durablement l'Europe dans une nouvelle politique européenne moins budgétaire.
C'est probable. Alors là, encore une fois, ce qui est sûr, c'est que effectivement, ces mesures ont été soutenues. Alors il faut rappeler que ce qu'on appelle les critères de Maastricht, donc en clair, limiter ou harmoniser, on va dire, le déficit public d'une part et l'endettement public d'autre part pour l'essentiel, ça s'est mis en œuvre parce qu'on a une monnaie unique qu'on partage. Hein, voilà. Bon. Là, effectivement, il est apparu, mais très rapidement, comme vous le rappelez, François Claus, il est apparu que pour permettre aux États membres, disons, de laisser filer la dépense publique pour soutenir le chômage partiel, pour faire en sorte que les entreprises puissent être aidées pendant le temps du confinement, eh bien, la Commission européenne, qui est la gardienne, on va dire, des règles européennes, a proposé d'elle-même qu'on suspende ces règles, et tous les États membres, effectivement, ont dit, bah oui, il faut le faire. Et je dis bien tous les États membres à l'unanimité, hein, c'est-à-dire que, y compris ceux dont on nous disait qu'ils étaient particulièrement égoïstes. De toute façon, il faut bien voir que ce qu'il se passe en ce moment, c'est une forme d'accélération d'un certain nombre d'évolutions qui étaient déjà en discussion ou dans les tuyaux. Hein. C'est-à-dire que la nouvelle Commission européenne, présidée par Madame von der Leyen depuis cet été, avait déjà mis, on va dire, en circulation des projets d'assouplissement de ces critères, notamment avec le commissaire français Thierry Breton et le commissaire italien à l'économie Paolo Gentiloni, hein, qui disaient « Bon, bah, de toute façon, maintenant, on sent bien qu'il faut faire évoluer les règles européennes, comme d'ailleurs c'est le cas depuis 1957. Elles ne cessent d'évoluer, même si elles évoluent relativement lentement. » Et puis d'autre part, il y a quelque chose qui peut paraître, moins immédiat, mais qui est très important, c'est que la réflexion de la Commission européenne et des États membres et du Parlement européen évolue considérablement depuis le mois de mars dernier, donc il y a un an, sur les relations avec la Chine. Hein. La Chine est considérée officiellement, non pas simplement comme un partenaire, mais comme un rival systémique, je cite. Eh bien là, il est clair qu'avec cette crise, maintenant qu'on est en train de se rendre compte que la Chine, n'a pas fait tout ce qu'elle aurait pu faire, qu'elle a maquillé un certain nombre de choses, qu'elle a tardé à prévenir, qu'elle essaye par moment, disons, de profiter de la situation dans un cadre diplomatique ou économique, eh bien, on se rend compte que ces réflexions qui ont été adoptées il y a maintenant un an deviennent vraiment d'actualité et vont sans doute être accélérées. Et puis enfin, le fait que la Banque européenne d'investissement, le fait que la Banque centrale européenne, pour ne prendre que ces exemples-là, mette énormément d'argent pour soutenir un certain nombre d'actions, y compris dans le domaine social et de la lutte contre le chômage, le fait que la Commission européenne, avec l'accord des États membres, vienne de fonder une réserve stratégique médicale qui va enfin permettre d'avoir ce qui a tant manqué à certains pays comme la France, l'Italie en particulier, et même l'Allemagne ou l'Espagne, à savoir d'avoir des immenses stocks, soit de respirateurs, soit de masques. Bah, effectivement, à un moment donné, on s'est dit, bah, tiens, on a qu'à les faire au niveau européen, ces stocks qui seront mutualisés, financés collectivement, ça coûtera beaucoup moins cher à tout le monde et au moins ils seront là. Tout ça est en train de se mettre en œuvre d'une façon extrêmement rapide, en un mois, alors qu'au moment de la crise des années 2008-2010, il a quand même fallu 4 ans pour mettre en place un certain nombre de mesures et de dispositifs. Mais ce qui est sûr, c'est que la Banque Centrale Européenne montre encore une fois à quel point elle joue un rôle non seulement de pilier, mais de force de réaction rapide, extrêmement impressionnant.
Et comment donc, d'une certaine manière, la pandémie peut aussi renforcer un certain nombre de défenses immunitaires de l'Europe. Merci Sylvain Kahn de nous avoir accompagnés dans vos avec réflexions. Plaisir. Je renvoie à votre ouvrage coécrit avec le grand géographe Jacques Lévy, Le pays des Européens. Très joli titre chez Odile Jacob. Ainsi s'achève C'est arrivé demain. Vous retrouverez l'ami Patrick Cohen dès la semaine prochaine, samedi et dimanche. L'occasion pour moi de remercier toute l'équipe qui travaille à distance et dans des conditions très difficiles de l'émission. Je remercie donc Marine Aprouzès pour la programmation. Je remercie Guillaume Vassot et Julien Blanc pour la réalisation. Nos amis Olivier Duval et Michel Lehenaf qui ont assuré des liaisons. Et croyez-moi, ce n'est pas simple en ce moment.